Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Alors que les pays pauvres s'enfoncent dans une crise alimentaire, que l'inflation confronte aussi les pays riches à une recrudescence de personnes touchées par la pauvreté, par la précarité alimentaire, c'est bientôt la crise climatique qui pourrait ajouter une étape supplémentaire dans la précarisation du mode de vie d'une partie importante de la population mondiale. Malgré tout, mon invité du jour est optimiste et croit en la mise en place d'une lutte efficace et coordonnée de tous ces pays pour y faire face. Bonjour Esther Duflo.
Bonjour.
Vous êtes économiste, vous êtes co-récipiendaire du prix Nobel d'économie 2019, professeur de lutte contre la pauvreté au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, le célèbre centre scientifique de recherche américaine. Vous êtes nouvellement titulaire de la chaire Pauvreté et politique publique au Collège de France. Votre leçon inaugurale se tient d'ailleurs ce soir à 18h, s'intitule « Expérience, science et lutte contre la pauvreté », presque 15 ans après. Et puis, vous publiez avec l'illustratrice Cheyenne Olivier une série de livres destinés aux enfants pour leur expliquer justement quelle est la situation des pauvres. Par exemple, Afia qui saura la guérir, donc aux éditions Seuil Jeunesse. Peut-être pourrait-on débuter par une définition finalement. Qu'est-ce que la pauvreté, sachant que la pauvreté est une condition relative, qu'elle ne s'exprime pas ici en France de la même façon qu'elle s'exprime dans les pays en transition vers le développement?
Pour ce qui concerne de la pauvreté dans le monde en général, on peut commencer par une définition très simple, qui est celle qu'utilise par exemple la Banque mondiale, c'est qu'on est pauvre si on consomme en deçà d'une certaine ligne. Cette ligne, aujourd'hui, elle est de 2,15 $, presque pareil que 2,15 €. Même cette ligne, qui est censée être absolue, une certaine qualité relative parce que en fait elle bouge au cours du temps. Elle était de presque 1 $ il y a 15 ans, puis elle est passée à 1,90 $, puis 2,15 $, qui reflète probablement notre réalisation que plus le monde s'enrichit en général, plus il est intolérable que les gens vivent avec vraiment très très peu. Mais c'est une définition qui est évidemment trop simple, puisque être pauvre, c'est pas juste manquer de revenus ou manquer de capacité de consommer, mais c'est aussi ne pas avoir accès à une éducation de qualité, ne pas avoir accès aux soins de santé de base, ne pas être capable de faire le travail qu'on voudrait faire. Des problèmes qu'on peut retrouver d'ailleurs, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres.
Parmi les différentes choses sur lesquelles vous insistez, effectivement, Esther Duflo, pour ce qui concerne donc la pauvreté absolue, autrement dit celle qui se situe en deçà de ce seuil de 2,15 $, c'est le fait qu'une personne pauvre, ça n'est pas seulement une personne qui dispose d'un pouvoir d'achat inférieur à une personne aisée, c'est quelqu'un dont la vie entière va se trouver bouleversée par cette condition économique.
Voilà, à la fois au niveau individuel, le simple fait d'être pauvre change les options dont les gens disposent. Et puis après, au niveau collectif, puisqu'une personne pauvre va habiter dans une région pauvre, dans un état pauvre, dans un village pauvre, qui de fait auront des infrastructures différentes. Donc par exemple, les enfants pauvres habitent dans des villages où il y a une école, mais peut-être cette école est différente de celle qu'ils pourraient avoir dans une grande ville, etc. La pauvreté, en fait, met des contraintes, impose toute une série de contraintes sur ces victimes, qui fait que elle a tendance à s'auto-entretenir, de créer des pièges de pauvreté, mais aussi, si on regarde du point de vue plus positif, et c'est la source de l'optimisme dont j'ai tendance à faire montre la plupart du temps, c'est que s'il y a des pièges de pauvreté, il y a aussi des boutons sur lesquels on peut appuyer pour les ouvrir. Et où tout d'un coup, on voit des cercles vicieux se transformer en cercles vertueux. Par exemple, avec meilleur accès à l'éducation, conduit à des enfants qui sont en meilleure santé, à les enfants de ces enfants qui eux-mêmes sont en meilleure santé, etc.
2,15 $, pour être précis, donc c'est 2,15 $ par personne et par jour. Or, par exemple, le logement, puisque celui-ci est sorti de ce calcul de la pauvreté absolue, Esther Duflo.
Oui, 2,15 $, c'est vraiment la consommation de tous les jours. Donc, sans parler du logement. Mais ça comprend quand même les vêtements, ça comprend la nourriture. Et ce qu'il faut garder en tête, ce qui est très difficile à garder en tête pour nous, c'est que c'est 2,15 $ après avoir pris en compte le fait que la vie est moins chère dans les pays pauvres. Donc quand on essaye d'imaginer la vie de quelqu'un qui vit avec moins de 2,15 $, il faut essayer de s'imaginer de vivre à Paris avec moins de 2,15 $, une fois qu'on est logé. C'est pas impossible de vivre avec 2,15 $ par jour et par personne à Paris, mais c'est très difficile. Et c'est vraiment à ça qu'il faut, c'est cet exercice de pensée qu'il faut essayer de faire pour comprendre la vie des gens, par exemple, dans les villages de nos livres.
Et oui, parce qu'en fait, j'ai l'un de vos livres, ces livres que vous publiez avec Cheyenne Olivier, l'illustratrice, entre mes mains, même pas peur de la grande ville, parce que je crois que dans votre trajet, la grande ville occupe une place importante. Je crois que c'est suite à une réflexion quand vous étiez enfant à la densité à Calcutta que finalement, eh bien, une partie de votre carrière s'est décidée, Esther Duflo.
La grande ville, c'est un des préjugés auxquels les pauvres sont confrontés dans notre vision, nous les moins pauvres, que ce soit d'ailleurs les gens qui vivent dans les pays riches, mais aussi les moins pauvres des pays pauvres, ont toujours cette idée que les pauvres sont sur le point de nous envahir dans nos pays, en essayant de migrer de pays pauvres aux pays riches, ou à l'intérieur des pays, dans les villes. C'est quelque chose qui a toujours été avec nous. Hein. On parlait au 19e siècle en France de classe laborieuse, classe dangereuse, où on était terrifiés des pauvres des faubourgs qui vivaient dans des conditions difficiles et denses et qui pourraient nous envahir à l'intérieur, au cœur de Paris. Et c'est le cas aujourd'hui dans les pays en développement où il y a une espèce de terreur de la surpopulation urbaine. Alors qu'en fait, le vrai problème, c'est que les gens ne veulent pas déménager dans les villes pour tout un tas de raisons parfaitement légitimes, en particulier les conditions de vie dont ils feraient l'expérience là-bas. Mais que du coup, les crises qui vivent dans les villages, par exemple ce qu'on a aujourd'hui de crise alimentaire, de crise climatique, etc., sont très difficiles à surmonter quand l'option d'en sortir est très difficile. Et ce qui est dans ce livre, Même pas peur de la grande ville, c'est de ça qu'on veut parler.
Alors, donc, ces livres sont destinés aux enfants, mais il y a aussi des passages destinés aux adultes qui permettent donc aux grandes personnes d'avoir une vue peut-être plus approfondie des questions relatives à la pauvreté que vous abordez, Esther Duflo. S'il fallait résumer votre travail et une partie des raisons pour lesquelles vous avez obtenu ce prix Nobel, c'est parce que vous avez adapté un certain nombre de techniques qui sont par exemple connues en médecine, les tests randomisés en double aveugle, où donc on va prendre une partie de la population, on va lui administrer un médicament et l'autre partie un placebo, et puis on va voir qu'est-ce qui est le plus efficace. Et puisqu'on parlait des grandes villes, eh bien, l'une des questions qui se pose pour les pauvres dans certains pays en voie de développement, c'est la question de la coupure, ce moment où les champs ne sont plus productifs. Que peut-on faire pendant ce moment-là? Et vous avez par exemple travaillé avec d'autres économistes, Esther Duflo, pour savoir s'il était intéressant pour lutter contre la pauvreté d'inciter ces pauvres à aller dans les grandes villes pendant ces moments-là.
Oui, c'est un travail d'un économiste du Bangladesh, Mushfiq Mubarak, qui est justement sur le Bangladesh, qui s'interroge sur cette question qui est que pendant la période creuse, pendant la période entre les récoltes, et cette période s'appelle au Bangladesh la période de la famine, donc c'est quand même très très clair, les gens mangent très peu. Est-ce que c'est possible pour les gens de partir à ce moment-là dans les villes ou même dans d'autres régions rurales qui sont sur des calendriers agricoles différentes où il y aurait du travail? Et ce qu'il leur a proposé, en fait, c'est l'équivalent du billet de bus pour faire le voyage. Tout le monde n'a pas accepté, mais parmi ceux qui ont accepté, on peut comparer ceux à qui on a fait cette offre à des gens parfaitement similaires à qui cette offre n'a pas été faite. Et ce qu'il a constaté, c'est que les familles qui sont restées au village mangent beaucoup mieux. On voit une différence de 1000 calories par jour. Donc c'est vraiment la différence entre mourir de faim et être bien nourri. pendant la période de la famine, quand il y a quelqu'un qui était parti en ville. Donc ça montre l'effet que même la migration temporaire peut avoir sur le bien-être de la famille. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'après, la plupart de ces gens ne sont pas forcément repartis. Une grande partie n'est pas repartie, malgré les bénéfices que leur famille avait, dont leur famille avait fait l'expérience. Ce qui montre qu'il y a des barrières très très fortes à la migration. Une, c'est même d'essayer une première fois. Les gens ont peur de ne pas trouver un emploi, peur des conditions. Dans notre livre avec Cheyenne, on voit cette terreur. Et puis les gens font l'expérience de problèmes une fois qu'ils arrivent dans la ville. Dans notre livre, c'est le Covid tout simplement qui ferme, mais ça aurait pu être une autre crise, qui ferme le chantier, qui fait que les gens sont renvoyés très brutalement chez eux. Et du coup, une résistance en fait à refaire cette expérience traumatique pour beaucoup de gens.
Et oui, parce que l'un des postulats sur lesquels vous travaillez, c'est celui de la rationalité des pauvres. C'est-à-dire, loin de la tradition qui consiste à vouloir mettre les pauvres sous curatelle, vous montrez que finalement les décisions en matière de travail, en matière de consommation des personnes les plus pauvres sont dictées par une représentation rationnelle des choses.
Elles sont dictées par une logique. Elle n'est pas forcément toujours rationnelle, de même que nous, les personnes riches, sont pas toujours rationnelles non plus. Mais il y a toujours une logique derrière la décision. Et donc, par exemple, on peut se demander d'un air un peu, disons, paternaliste, mais pourquoi vous partez pas en ville pour gagner 5 fois plus pour nourrir votre famille? Et en fait, on voit toutes les raisons pour lesquelles la migration, par exemple, est un acte très difficile, très coûteux, que les gens peuvent décider de faire à un moment ou à un autre, mais que s'ils le font, c'est après une réflexion mûre. D'où, à nouveau, ces peurs irraisonnées que nous avons, nous, dans les pays riches, que si seulement les frontières étaient ouvertes, toute la misère du monde viendrait arriver chez nous, comme le disait il y a maintenant longtemps Michel Rocard. C'est juste pas vrai, parce que toute la misère du monde est très satisfaite, enfin, vit chez elle, et pour la plupart des gens, c'est le choix qu'ils ont fait, le choix qu'ils continueraient à faire, même si les possibilités de migrer étaient plus fortes. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre.
Pour les plus pauvres aujourd'hui, notamment pour ceux qui vivent avec 2,15 $ par jour et par personne, avec moins de cette somme, Esther Duflo, il y a beaucoup d'inquiétudes liées au renchérissement du coût des denrées alimentaires. Votre point de vue à cet égard?
Je pense qu'on n'a pas encore complètement la visibilité de voir à quel point ce sera catastrophique. Ça dépend un petit peu de combien de temps ça dure. Parce que sur quelques mois ou même sur un an, les gouvernements, même des pays pauvres, sont capables de venir en aide à leurs citoyens en les soutenant, soit en soutenant les prix alimentaires, soit en aidant directement leurs citoyens par des transferts financiers, par exemple. Mais au bout d'un moment, les pays pauvres ne sont pas du tout dans la possibilité, dans la position que nous sommes, de faire du quoi qu'il en coûte, parce que ils n'ont pas la capacité d'emprunter vis-à-vis du marché international. Les dons des pays les plus riches ne se sont pas précipités vers eux pour faire face à ce problème. Donc au bout d'un moment, la capacité fiscale des pays pauvres de faire face à ce renchérissement va s'arrêter. Et donc je pense qu'à ce moment-là, on va découvrir l'ampleur potentielle du désastre. On le voit bien sûr déjà dans certains endroits comme en Somalie où on est très très proche de la famine. Je pense que est-ce qu'il y aura des effets massifs au-delà de ces régions déjà très fragilisées? Ça va dépendre de combien de mois l'inflation à ce niveau dure et de est-ce qu'il y aura une réponse venant des pays riches ou pas. Mais sur cette deuxième question, je doute un petit peu.
Mais alors, ce qu'il y a de terrible, Esther Duflo, c'est que c'est une crise qui est liée au renchérissement du prix des denrées alimentaires et non à une raréfaction de ces denrées alimentaires.
Il y a une raréfaction conjoncturelle, qui vient du conflit entre la guerre, du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Simplement, l'Ukraine est quand même le grenier à blé du monde. Beaucoup de pays pauvres recevaient leur grain de l'Ukraine et la Russie aussi dans une certaine mesure. Et puis de toute façon, il y a un bloc des exports, etc. Donc il y a un renchérissement, il y a un appauvrissement conjoncturel. Mais il n'est pas, l'ampleur n'est pas suffisante pour causer en soi une famine. C'est-à-dire il y a même aujourd'hui suffisamment de nourriture pour nourrir le monde entier et en laisser un peu de côté. Mais il y a une répartition de cette nourriture qui n'est pas juste ou qui n'est pas équitable. C'est toujours vrai, c'est structurellement vrai, qu'il y a assez à manger dans le monde, mais qu'il y a quand même des gens qui ont faim. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui.
Mais alors, là aussi, est-ce que ça n'est pas les conséquences en partie de la mondialisation, d'un certain nombre de cultures, des cultures exportatrices, le fait qu'un certain nombre de cultures vivrières dans des pays du Sud ont été abandonnées, Esther Duflo?
Oui et non. C'est-à-dire, c'est plutôt une conséquence d'une mondialisation qui est mal... gérée ou qui est inégale ou qui est injuste. Concrètement, dans un monde pur et parfait, on produirait, ça fait absolument du sens de produire du blé en Ukraine plutôt que dans le Punjab. En Ukraine, les sols s'y prêtent, il y a beaucoup d'eau. Dans le Punjab, c'est très sec. Il faudrait faire autre chose que du... Donc, ça pourrait faire parfaitement sens que le Punjab se spécialise dans des productions qui soient soit exportatrices, soit pour la consommation locale, mais qui ne soient pas de céréales. Le problème, c'est que... Et de manière générale, on pourrait voir, par exemple, que ça faisait, logiquement, c'est très très difficile de faire des bananes en Ukraine et c'est très difficile de faire du blé au Ghana. Donc logiquement, on peut considérer que c'est une bonne idée de faire du cacao et des bananes en Afrique et du blé en Ukraine. Donc le problème, je pense que c'est pas la mondialisation en tant que telle qui pourrait plutôt permettre d'utiliser au mieux et de manière plus rationnelle et d'ailleurs meilleure pour le climat les ressources naturelles dont nous disposons. Mais dans ce cas-là, il faudrait que ce soit assorti d'un système de commerce international qui fonctionne bien même pendant les crises et qui comprend une part d'assurance et de solidarité dans les moments où soit les prix alimentaires augmentent, soit les prix des bananes baissent. Pour que le bien-être de ceux qui produisent nos bananes ne soit pas une fonction de cours de prix qu'ils ne maîtrisent absolument pas.
Esther Duflo, prix Nobel d'économie, vous allez prononcer tout à l'heure votre leçon inaugurale au Collège de France et vous publiez avec Cheyenne Olivier une série d'albums au seuil jeunesse pour expliquer la pauvreté, les problématiques liées à la pauvreté aux enfants. Par exemple, j'ai sous les yeux Nilou Fini, l'école buissonnière.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Nous sommes en compagnie d'Esther Duflo, vous êtes économiste, vous êtes co-récipiendaire du prix Nobel d'économie de 2019. On vous doit des travaux extrêmement importants sur la lutte contre la pauvreté. C'est d'ailleurs le thème de votre leçon inaugurale au Collège de France que vous donnerez aujourd'hui même à 18h. Et vous publiez une série d'albums jeunesse en compagnie de l'illustratrice Cheyenne Olivier pour justement apprendre aux enfants et apprendre aux parents, puisqu'il y a aussi une partie destinée aux parents dans ces albums. Comment faire pour lutter contre la pauvreté? Et il y a un point extrêmement important sur lequel vous avez toujours insisté, Esther Duflo, en matière de lutte contre la pauvreté, c'est la question institutionnelle. Il y a un album qui s'intitule « Oula, en avant les élections », tout simplement parce que la manière dont la gouvernance d'un pays agit est déterminante dans la lutte contre la pauvreté. Expliquez-nous pourquoi.
À tous les niveaux, la gouvernance est déterminante, que ce soit au niveau de l'Assemblée, on vient d'en parler avec le billet politique, mais aussi au niveau du village, où les élections déterminent qui va être en charge de ce qui est décidé localement. Et dans de nombreux pays, il y a une décentralisation importante, où une partie non négligeable des fonds sont dépensés localement et choisis localement. Et donc cet album Oula se concentre sur cette gouvernance locale, à la fois parce qu'elle est importante et aussi parce qu'elle est plus facile à illustrer justement pour les enfants.
Et oui, parce qu'en fait, un certain nombre d'expériences que vous avez menées ou que vos pères ont menées permettent de savoir comment on peut, par exemple, apporter des aides aux plus pauvres. On parle de pauvreté absolue. Par exemple, la question des moustiquaires. Esther Duflo, peut-être nous rappeler en quoi consistait cette problématique des moustiquaires qui peuvent sauver de nombreuses vies, mais qui, même si leur prix est modique, pour un Européen, pour un Français, eh bien dans certains pays, valent des sommes qui sont rédhibitoires.
Oui, les moustiquaires sont aussi présentes d'ailleurs dans la série, dans le livre sur Afia, puisque la petite Afia souffre de paludisme, qui peut être empêchée par une moustiquaire. Et il y a maintenant, bah, justement, une quinzaine d'années, il y avait un débat très actif dans les ONG, les institutions internationales, les gouvernements, etc., sur est-ce qu'il faut donner les moustiquaires aux gens ou est-ce qu'il faut leur faire acheter pour un prix même très subventionné. Et l'idée, c'était pas tellement d'économiser de l'argent, mais c'était que c'était très important pour les gens de payer, pour vraiment comprendre que c'était un objet important et qu'ils allaient bien l'utiliser. Et donc là, il y a une série d'expériences qui ont été menées, en particulier par Pascaline Dupas, en donnant les moustiquaires soit à un certain prix positif, soit gratuitement, et qui a constaté deux choses. D'une part, c'est qu'un prix même modique décourage l'achat de la moustiquaire énormément. Donc du coup, ça devient plus difficile d'en donner un maximum pour que toute la population soit couverte, ce qui est essentiel pour quelque chose comme le paludisme. Et d'autre part, quand les gens ont une moustiquaire gratuitement, ils l'utilisent tout aussi bien. Et donc, ce que je vais parler justement ce soir dans ma leçon inaugurale, c'est ce qui est advenu après ces expériences. Parce qu'on peut faire l'expérience, trouver le résultat, puis ça s'arrête là. Mais c'est pas du tout pour ça que je fais de l'économie. Je fais de l'économie pour trouver ces résultats et qu'ensuite aider à la diffusion de ces résultats et que ça change la vie des gens. Et là, c'est vraiment un exemple fabuleux puisque suite à ces résultats, le discours a changé. Autour justement de est-ce qu'on doit donner les moustiquaires gratuitement, le monde a compris que la distribution gratuite était la manière la plus efficace de couvrir un maximum de gens. Du coup, les gouvernements, les ONG, les institutions internationales, tout le monde s'est mis ensemble sur ce projet d'une diffusion massive de moustiquaires qui a eu lieu. Il y a eu plusieurs centaines de millions de moustiquaires qui ont été distribués en Afrique depuis dans les 15 dernières années, qui a mené à une chute absolument impressionnante des cas de paludisme et des morts de paludisme. Et les moustiquaires, la distribution gratuite de moustiquaires serait responsable d'à peu près 540 millions de cas de paludisme en moins. Donc là, on voit vraiment tout le lien entre l'expérience et la vie des gens, littéralement la survie des gens. Et dans le livre Afia, on voit, on illustre justement ces distributions gratuites qui se font souvent avec la vaccination et le fait que la petite fille à la fin du livre est protégée par sa moustiquaire.
Mais alors, donc ça, si on essaye d'extrapoler, mais justement, je vais le faire sous votre contrôle, Esther Duflo, cela veut dire que dans certains cas, des mécanismes d'assistance sont des mécanismes qui sont essentiels pour tirer les individus hors de la pauvreté. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, une solution en France à la crise alimentaire, ce serait de rendre un certain nombre de denrées ou bien moins onéreuses ou bien gratuites? On pourrait imaginer des food stamps, des systèmes de tickets alimentaires, comme c'est le cas aux États-Unis. Est-ce que c'est une possibilité? Alors que, bien entendu, certaines personnes évoquent le risque, voire d'autres métaphores de l'assistanat.
Il y a deux sujets. Il y a la question de est-ce que on a envie de redistribuer et ensuite de comment le faire. La question de redistribuer me paraît, pour moi, elle est tranchée. C'est-à-dire, il y a vraiment très très peu. Il y a rien. On ne voit dans la littérature aucune preuve, aucun signe que cet assistanat découragerait les gens, l'initiative des gens, le travail des gens, etc. On n'en voit tout simplement pas. Donc ces peurs que nous avons, nous, de notre position cossue, que où il ne faut pas être trop gentil avec les pauvres parce que ça les rendrait paresseux, et finalement ce serait peut-être pas bien pour eux parce qu'il faut être responsable dans la vie, elles sont simplement infondées par rapport à la réalité des expériences que vivent les gens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, c'est la forme que prend l'assistance. Est-ce qu'on le fait sous la forme de food stamps, de denrées gratuites, ou est-ce qu'on va directement vers un support financier qui est plutôt plus facile à administrer, qui peut être ciblé plus directement sur les personnes qui en ont plus besoin? C'est encore moins de l'assistanat de donner aux gens un budget qu'ils peuvent dépenser de la manière qui les arrange plutôt que leur donner des food stamps. Et là encore, en fait, toutes les données qu'on a va plutôt dans le sens de donner, de redistribuer sous une forme financière, ça peut être par le système fiscal ou ça peut être par des aides financières directement, plutôt que de multiplier les mécanismes
un revenu universel
Après, la question de l'universalité se pose aussi. Pourquoi universel? En France, on sait très bien cibler qui en a le plus besoin. Donc, à mon avis, dans un pays comme la France, plutôt qu'un revenu universel, on aurait un revenu garanti minimum. Serait repris au fur et à mesure que les gens s'enrichissent. Dans un pays beaucoup plus pauvre, où cibler est compliqué et savoir qui a vraiment besoin d'aide à un moment ou à un autre est plus compliqué, on peut tout à fait se poser la question du revenu universel, d'un revenu universel de base qui s'assure que les gens ne soient jamais sous le risque de littéralement ne pas avoir assez à manger.
Mais alors, dans ces conditions, Esther Duflo, puisque on aboutit à des certitudes dans votre domaine, par exemple sur les moustiquaires, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit chez vous, eh bien on sait qu'il vaut mieux donner des moustiquaires si on veut lutter contre le paludisme. On aboutit aussi à d'autres certitudes sur, par exemple, le fait qu'il faut apporter des aides aux plus pauvres, notamment en cas de crise alimentaire, et qu'il n'y a pas de risque, dites-vous, de créer des assistés. Je ne sais pas très bien ce qu'est un assisté, mais en tout cas, on voit qu'il n'y a pas, disons, d'effet secondaire à ce type d'aide. Pourquoi, si il y a consensus scientifique là-dessus, celui-ci ne fait pas sens auprès des politiques?
Sur cette question justement de l'assistanat, entre guillemets, et du fait qu'on rendrait les pauvres paresseux en les aidant, il y a une idéologie qui est extrêmement persistante et qui n'est pas seulement chez les dirigeants politiques, mais qui est partagée par une grande partie des citoyens.
Un sens commun.
Et en particulier, donc on a fait une expérience il y a quelques années avec Abhijit Banerjee. On a posé la question suivante. Si vous aviez accès, par exemple, à un revenu universel, est-ce que vous arrêteriez de travailler? Quand on pose cette question-là, la plupart des gens disent non, absolument pas. L'autre moitié des gens, on leur a posé la question, si vous aviez accès à un revenu, si les autres gens avaient accès à un revenu universaire, est-ce qu'ils arrêteraient de travailler? Et là, ils disent, ah oui, 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 les autres gens, ils arrêteront de travailler. Donc, je pense que, par introspection, on se rend bien compte que cette aide, que ce soit l'assurance santé, l'assurance chômage, un revenu universel, etc., ne nous rendrait pas paresseux, mais on pense que les autres, ça les rendrait paresseux. Et du coup, c'est une politique qui est très impopulaire parce qu'on ne veut pas être les seules personnes qui restent à travailler pour financer la retraite des autres. Et parce que c'est une position qui est répandue, même si elle est incorrecte, elle devient aussi politiquement favorisée, que ce soit d'ailleurs dans les pays riches ou dans les pays pauvres.
Bon, mais parmi vos pairs, il y a beaucoup d'économistes qui travaillent sur les incentives, sur les motivations, et qui estiment que dans une économie, lorsqu'il n'y a pas de motivation, eh bien, il ne peut pas y avoir d'incitation à travailler, par exemple. C'est finalement au cœur de la réforme aujourd'hui de l'assurance chômage, Esther Duflot. Alors, est-ce que vous êtes en désaccord avec les économistes qui travaillent sur les motivations? Est-ce que tout est une question de seuil, dans lequel cas il faudrait évidemment peser les aides qui sont apportées aux uns et aux autres?
Alors, c'est absolument vrai que l'économie, ou disons, vient d'une tradition où on met un poids très important sur les incitations. C'est vraiment le moteur qui fait fonctionner toute notre petite machine économique. C'est le modèle que la plupart des économistes ont implicitement ou explicitement quand ils réfléchissent à comment déterminer la politique, etc. Donc, cela dit, la position change à l'intérieur du domaine. Le domaine de l'économie est beaucoup plus vaste et diverse qu'on l'imagine. Et il y a beaucoup d'économistes aujourd'hui, justement parce que les expériences, qu'elles soient contrôlées comme celles que je conduis ou qu'elles soient naturelles à cause de d'autres changements politiques, se sont accumulées. Et on le sait que ces réformes d'assurance chômage qui rendent les assurances chômage plus strictes ont un effet très clair, c'est qu'elles réduisent la qualité de l'assurance dont les gens bénéficient. Et vraiment aucun effet très clair sur la désincitation au travail. Donc, en fait, on en sait assez aujourd'hui pour être très sceptique sur le fait que rendre les allocations chômage plus strictes aurait un effet positif très fort sur l'économie. Mais bon, ça prend du temps à se diffuser dans la profession et encore plus de temps à se diffuser chez les hommes et les femmes politiques. En partie parce que ils n'ont pas forcément fait beaucoup d'économies et quand ils l'ont fait, c'était il y a longtemps, un cours de base où ils ont juste appris le modèle de base et ne se sont jamais vraiment étendus sur, oui, est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles ce modèle de base se trouverait invalidé et surtout, qu'est-ce qu'on en sait empiriquement?
Quand vous écoutez les hommes politiques, vous trouvez que leur manière de parler d'économie est fautive, insuffisante, si c'était vos étudiants?
Elle est un peu, comme on dirait aux États-Unis, Economics 101. C'est-à-dire, tout le monde a pris le cours d'économie numéro 1 et pas forcément passé au cours d'économie numéro 2 ou numéro 3. Et malheureusement, le cours d'économie numéro 1 est celui qui est encore emprunt de cette idéologie et de ces modèles qui, à l'intérieur même de la profession, on sait, ne sont plus si valides. Donc, en fait, ils sont un peu en retard.
Mais alors, ils sont en retard parce que vous faites plutôt de la microéconomie, c'est-à-dire que vous évaluez les mécanismes de pauvreté pour les individus et leur efficacité. Ils sont mauvais en microéconomie ou en macroéconomie, c'est-à-dire la manière de faire des équilibres, de gérer les dettes, de gérer une comptabilité nationale, Esther Duflot?
Sur la dette, la comptabilité nationale, etc., pour être honnête, les économistes sont très peu à leur dire. Donc là, je trouve plutôt que c'est les fonctionnaires, les politiciens, etc., qui ont une connaissances pratiques de terrain qui dépassent en fait de loin ce que les économistes professionnels sont capables de leur dire.
Donc tout ce qu'on dit par exemple sur la dette, sur le fait que l'argent gratuit c'est fini ou l'argent magique, ça par contre, ce sont des énoncés que vous pouvez approuver ?
Non. Vous m'avez parlé de comptabilité nationale. Sur la comptabilité nationale...
Et de dette. Vous avez parlé aussi de...
Après, sur les conséquences de la dette...
C'est là où je veux vous entrer.
Sur les conséquences de la dette, alors, moi, personnellement, Esther Duflo, c'est vraiment pas du tout mon sujet d'expertise. J'ai fait une carrière pleine de succès à ne pas parler de ce dont je ne connais pas, donc je ne vais pas commencer aujourd'hui.
Donc je ne vais pas réussir à vous entraîner sur des sujets que vous ne connaissez pas.
D'autant plus que je crois qu'il y a, autant que je puisse comprendre, je crois, il n'y a pas de consensus, même dans la profession. Il y a un consensus clair sur le fait que, et à la fin des fins, il faudra bien un équilibre. Donc cette dette qu'on accumule, il faudra bien qu'elle soit remboursée. Donc il faudra une augmentation des recettes dans le futur pour compenser les dépenses qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on sait moins, je pense, quelle est la durée pendant laquelle on peut se permettre une augmentation de la dette. On sait qu'on ne peut pas avoir... quand des pays ont une dette énorme qui doivent rembourser, que ça fait partie du budget, ça devient grévant. Dans les pays en développement, c'est un très 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 gros problème, mais dans les pays riches aussi. Et on sait aussi de l'autre côté que dans une situation, par exemple, comme celle du Covid, la position « quoi qu'il en coûte » a permis de réduire les dommages économiques et que donc c'était très clairement la bonne chose à faire. Après, ce qu'on sait beaucoup moins, je pense, ou sur lequel, autant que je puisse dire, il n'y a pas consensus dans la profession, c'est quel est le chemin pour aller de l'un à l'autre.
Il y a dans le livre que vous aviez publié avec Abhijit Banerjee, « Économie utile pour des temps difficiles », livre que vous aviez publié aux éditions du Seuil, il y avait une idée extrêmement importante qui était celle selon laquelle les pauvres l'étaient notamment parce qu'il leur manquait des informations essentielles. C'est-à-dire qu'en fait, dans les décisions, donc on l'a dit, ils sont rationnels, c'est-à-dire qu'ils ont une logique dans leurs décisions d'investissement, dans leurs choix scolaires, dans leurs choix d'habitation, mais... cette rationalité, elle est limitée par le fait que leurs informations peuvent être fautives, incomplètes. Ça, c'est une aide, par exemple, qui se pose, y compris en milieu scolaire en France, qui peut être apportée sans aide matérielle et qui, si l'on vous suit, Esther Duflo, aurait un effet décisif sur le destin de ces individus et de leurs enfants.
Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve de toute façon, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres. Hein. La question de l'information, qu'est-ce qu'on sait dans des pays où l'accès à l'information est très limité parce que les gens n'ont pas d'accès à l'Internet, n'ont pas d'accès aux journaux. L'information est limitée par les expériences locales. Et du coup, c'est non seulement l'information, mais même les aspirations qui peuvent être limitées par les expériences locales. Donc simplement de montrer qu'est-ce qui se fait ailleurs peut changer les décisions. Dans nos livres, par exemple, de temps en temps, une solution au problème est apportée par « Ah, mais j'ai appris que c'est ce qu'ils faisaient dans le village d'à côté ». Donc, dans certains cas, une information bien présentée peut permettre aux gens de changer de décision. Ce qui est très difficile avec l'information, c'est comment on la présente bien pour que ceux qui la reçoivent y fassent confiance. Pendant la période de Covid, par exemple, il y avait information et désinformation qui se combattaient. Et donc, la question, c'est qui fait encore le sujet de recherches passionnantes, c'est quel est le bon messager pour une information, est-ce qu'il faut essayer de tout dire d'un côté ou avoir des messages beaucoup plus précis, est-ce qu'on peut utiliser le réseau social par exemple à l'intérieur d'un village ou à l'intérieur d'une ville pour faire passer l'information à des gens influents qui vont pouvoir la faire diffuser autour d'eux. Donc une fois qu'on a dit « Oh, l'information est importante », on a en fait très peu dit. Et dans la plupart de mon travail, ce que j'essaye de faire, c'est de passer de ces généralités « l'information est importante » à « très bien ». Et alors, comment on va la faire passer, cette information ? Est-ce qu'on passe par la radio ? Sûrement. Est-ce qu'on
la radio publique, par exemple.
Radio publique. Est-ce qu'on passe par trouver les bonnes personnes dans un village ou dans une communauté pour convaincre les autres, etc.
Mais justement, il y a un certain nombre d'expériences qui sont faites parce qu'en fait, tout votre travail, Esther Duflo, consiste à partir de postulats tels que celui-ci, l'information manque aux pauvres pour trouver des moyens pratiques et concrets pour que ceci ait une efficacité sur le terrain.
Exactement. Donc on part de l'idée « Ah, l'information est importante » à « Comment on va diffuser l'information de la manière la plus efficace ?» Donc par exemple, pendant la crise du Covid, au départ, il y avait très peu d'informations, beaucoup de confusion. Et la question qu'on s'est posée dès le début, vraiment littéralement en avril-mai 2020, c'est comment faire passer quelques informations importantes sur la distanciation sociale, sur le port des masques, à un maximum de gens, que ce soit en Inde ou que ce soit aux États-Unis, dans des communautés auxquelles personne ne parlait vraiment, par exemple la communauté des Noirs américains. Et donc on a réalisé des expériences donc en Inde, par exemple, en utilisant Abhijit Banerjee, qui est une figure bien connue au Bengale, pour faire des petites vidéos qui ont été diffusées à des dizaines de millions de citoyens, ou aux États-Unis, en travaillant avec un groupe de médecins à l'hôpital de Boston, pour créer des toutes petites vidéos avec différentes variations pour voir quelle était la vidéo qui ferait vraiment la différence et qui persuaderait les gens de changer leurs actions.
Esther Duflo, c'est votre leçon inaugurale aujourd'hui à 18h, expérience, science et lutte contre la pauvreté presque 15 ans après. Vous avez le trac.
C'est quand même un moment important de faire cette leçon en français devant un public large, je l'espère, et français, donc oui, forcément.
Je suis sûr pour le public large. Bon, alors on vous dit merde.
Ben merci.
Non, il ne faut pas dire merci,
il faut qu'on
le refasse. Merde. J'en profite pour dire qu'il y a aussi vos albums publiés avec Cheyenne Olivier, Oula en avant les élections, Nilou finit l'école buissonnière, c'est au Seuil Jeunesse.